En introduction, j'avais prévu de vous faire un petit point de contexte et de vous rappeler un petit peu ce que sont ces fameux emporia, qui s'inscrivent donc dans un contexte, les 7e, 8e siècle, qui est marqué par de profondes mutations, tant donc dans le monde carolingien que dans le reste de l'Europe du Nord. Et ces évolutions affectent aussi bien le monde rural que les échanges marchands. Le centre de gravité économique se déplace alors du pourtour méditerranéen vers le bassin des mers nordiques, profitant notamment de l'introduction de la voile dans cette partie de l'Europe. Un système de navigation marchande se développe alors dans ce que Henri Pirenne nommait le bassin économique des mers septentrionales, donc la Manche, la mer du Nord et la Baltique. Et donc c'est précisément à cette époque qu'apparaissent de nouveaux sites portuaires qu'on appelle donc Emporia ou Vic également dans le monde anglo-saxon, des sites portuaires qui occupent une place de choix au cœur des nouveaux réseaux commerciaux sur à la fois donc les rivages scandinaves, anglo-saxons, francs et même slaves. Ces ports sont situés au croisement de routes commerciales, souvent sur des sites naturellement protégés et sur des frontières politiques, culturelles, ethniques ou géographiques. Ces ports abritent une forme d'habitat permanent et se caractérisent donc, on l'a dit tout à l'heure, par deux grands types d'activités, le commerce et notamment les échanges à longue distance et les activités artisanales. Or, les mutations à l'origine de l'apparition de ces nouveaux sites portuaires et qui sont survenues donc à partir du 7e siècle ont entraîné des changements dans les modes de vie, avec par exemple l'apparition de modes de consommation spécifiques. Toute la question que je vais me poser aujourd'hui est de savoir si on peut aller jusqu'à qualifier justement ces modes de vie spécifiques d'urbains. La dénomination de ville fait en effet débat pour ce qui concerne les emporia. Les spécialistes de l'archéologie et de l'histoire urbaine s'opposent depuis des décennies sur l'épineuse question de la définition d'une ville et donc des critères qui permettent de définir certains sites ou pas comme des villes. Certains préférant, par exemple, parler de proto-ville. Alors, en français, on ne trouve pas très souvent cette expression, mais on la trouve assez souvent en anglais, proto-towns. En français, je trouve ça très laid, d'ailleurs, proto-ville. Plusieurs traits contribuent à définir le caractère urbain d'un site. Alors, en général, on retient l'organisation rationnelle du site, également une certaine densité de population, la présence d'activités autres que l'agriculture, c'est-à-dire du commerce, de l'artisanat, autant de critères qui s'appliquent bien au port dont il est question aujourd'hui. Alors, en réalité, il faut nuancer un petit peu ce débat sur la notion de ville. C'est un débat qui reste propre au monde romanisé. Au-delà de l'ancien limès, et notamment en Scandinavie, les emporia représentent la première phase d'urbanisation. Donc, on ne se pose pas vraiment la question de savoir si ce sont des villes ou pas. Oui, ce sont les premiers sites urbains de toute façon qui apparaissent. Alors, site urbain ou proto-urbain, si on veut adopter une terminologie plus prudente, quoi qu'il en soit, un emporium, c'est à la fois un port et une porte d'entrée et de sortie, pour des marchandises variées et en quantité importante. Dans un contexte de circulation accrue des hommes et des marchandises, alors notamment entre le continent, le monde anglo-saxon et la Scandinavie, ces emporia, ces vics, servent de lieu de passage à la fois pour les voyageurs et pour les biens, ce qui en fait des melting pots culturels, là aussi c'est une expression qu'on retrouve assez souvent, des lieux de brassage, si vous préférez en français, privilégiés pour les circulations de savoir-faire, d'idées, de techniques et pas seulement de marchandises. Différentes communautés s'y établissent et par leur seule présence en font des carrefours cosmopolites. Alors bien qu'étant assez éloignés les uns des autres, tous ces ports semblent en lien assez étroit par-delà les mers, directement ou indirectement. Alors quand je dis assez éloigné, c'est peu de le dire. Hein. Si on prend par exemple Birka et Hamwick en Angleterre et qu'on fait ça à vol d'oiseau juste par mer, il y a plus de 2000 km qui les séparent. Malgré tout, les deux sont probablement en contact, à défaut de l'être directement, par l'intermédiaire de ports comme Dorestad ou Hedeby. Grâce à cette situation géographique, ces deux ports, donc Dorestad et Hedeby, jouent le rôle en effet de plaques tournantes. Vous voyez, ils sont relativement centraux hein, sur la carte, faisant le lien entre Est et Ouest, entre mer du Nord et mer Baltique. La mer crée donc des liens culturels Et tous ces sites présentent des similitudes assez frappantes, tant dans leur structure qu'en ce qui concerne les objets qu'on a pu y retrouver, qu'il s'agisse des monnaies, les fameux seata ou proto-deniers, nous y revoilà, ou proto-quelque chose, les céramiques rhénanes, le basalte rhénan, mais aussi la stéatite norvégienne, les armes, les bijoux occidentaux ou encore le verre. Les activités pratiquées sur ces différents sites sont également assez similaires. On y retrouve le travail du métal, le travail du verre, le travail de l'ambre ou encore le travail du bois de cervidé, notamment pour faire des peignes. Le découpage de leur partie centrale en parcelles, donc des parcelles qui sont organisées de part et d'autre, de rues parallèles ou perpendiculaires au rivage et aux jetées, pourraient aller dans le sens d'un modèle qui aurait essaimé le long des rives des mers nordiques. Les comptoirs commerciaux qui sont fondés par les Scandinaves à partir du 9e siècle, donc cette fois-ci un petit peu plus tard, au départ des voies commerciales implantées sur les grands fleuves de l'actuelle Russie, donc la Volga, la Dvina, le Dnieper, ne sont ainsi pas sans similitude, eux non plus, avec les emporia nordiques, dont la structure n'était déjà pas, sans rappeler, celle des ports francs. Donc l'essor de sites comme Menslin, Trussau, Volin doit probablement beaucoup au dynamisme des marchands scandinaves. La coïncidence de certains phénomènes d'une rive à l'autre des mers nordiques est également frappante. L'apparition de bois de renne, de perles de verre du Moyen-Orient, de céramique franque à Ribes dans le dernier quart du 8e siècle par exemple, est contemporaine de l'essor de Dorestad et du monnayage de Dorestad, qui était probablement un site très important dans le réseau commercial de Ribes. Pour la première fois, donc, des objets similaires sont fabriqués sur de vastes aires en s'adressant à une clientèle assez large. C'est par exemple le cas des célèbres broches ovales scandinaves qu'on a retrouvées sur un petit peu tous les sites, que ce soit Ribes, Hedeby ou même Kaupang, Birka, qui sont donc des objets types produits en série à partir donc de moules d'argile et qui nécessitent donc des matières premières assez spécifiques et puis surtout un savoir-faire. Autant de raisons qui expliquent que la fabrication de ces bijoux se soit développée dans un premier temps, donc dans des sites comme les Emporia. La forte ressemblance des exemplaires retrouvés en particulier à Ribes et à Kaupang plaide en faveur donc de l'existence de liens entre ces deux ports. Plusieurs ensembles de sites et d'artefacts, plus ou moins connectés entre eux, parce que l'archéologue donc danois Søren Sindbæk, un collègue de Sarah, nomme des schémas d'affinité culturelle, semble ainsi s'esquisser. Les objets ne sont toutefois pas les seuls à circuler, on l'a déjà dit tout à l'heure. Les techniques, les savoir-faire peuvent également s'échanger, et parfois sur des distances très importantes. Certaines activités artisanales, la fabrication de peignes ou de perles de verre par exemple, requièrent en effet, outre la matière première, plutôt la main-d'œuvre et plutôt même des compétences pratiques assez spécifiques, ce qui passe par la circulation donc des personnes et pas seulement des matières premières. Bref, les emporia sont donc les lieux par excellence des circulations en tout genre, des transferts, des circulations de biens, d'hommes, d'idées, de savoir-faire. Mais je ne vais pas développer aujourd'hui sur ces questions de production artisanale, puisque le sujet est très vaste et le temps dont on dispose reste quand même limité. J'ai donc choisi, pour développer cette notion de transfert culturel, de m'appesantir davantage sur l'exemple des pratiques alimentaires, en faisant tout un petit excursus toutefois sur les monnaies, qui présentent un parallèle intéressant, pour tenter de vous montrer tout d'abord que ces ports étaient propices à différentes formes d'imitation. Ça sera l'objet d'une première partie, avant de me demander, donc dans un second temps, si ces communautés portuaires ne créent pas également un mode de vie spécifique, marqué par des traits à la fois urbains et cosmopolites. Donc, carrefour culturel où se retrouvent les marchands de différents horizons, les emporia sont propices à l'adoption de pratiques venues d'ailleurs et à des phénomènes d'imitation. La consommation de vin en Scandinavie et même en Angleterre en est un bon exemple. Alors pourquoi c'est un bon exemple ? Ben parce que je ne vous surprendrai pas en vous disant que le vin reste rare et donc un luxe dans ces contrées beaucoup trop septentrionales pour qu'on puisse y faire pousser la vigne. Arrivé en Angleterre, le pauvre Alcuin se plaint déjà en 790 du manque de vin. Il est très malheureux parce que ça manque sur la table. Et donc il se plaint dans une lettre adressée à son disciple et ami Joseph l'Irlandais. La présence de vin est pourtant bien attestée tant par les textes que par l'archéologie dans cette partie de l'Europe. D'ailleurs, dans cette même lettre, Alcuin se réjouit un petit peu plus tard, après avoir d'abord été très malheureux, se réjouit que le médecin de Charlemagne ait promis de lui expédier 2 charretées du précieux breuvage. Il est sauvé. Cela est par ailleurs confirmé par un autre texte, qui est le Colloquium rédigé d'Alfric, qui est rédigé au début du XIe siècle. Et donc dans ce traité, le marchand, qui est donc un personnage, un archétype, ce marchand juge bon de préciser que parmi les denrées qui ne sont pas originaires de la région, il importe du vin. Plus à l'est, donc en Scandinavie cette fois-ci, l'épisode assez célèbre pour ceux qui se sont un peu penchés sur l'histoire de la Scandinavie, de la riche veuve Fridebourg, qui est relatée donc dans un texte assez fabuleux qui est la Vita Anscarii, et qui est donc rédigé dans le dernier quart du IXe siècle par le moine Rimbert. Donc dans cet épisode qui se trouve au chapitre 20 de la Vita Anscarii, la veuve Fridebourg fait venir justement du vin, mentionne du vin, ce qui confirme l'existence d'importation de vin en Scandinavie. Alors elle fait ça dans un contexte très particulier, c'est en prévision de sa mort et dans une période où il n'y a plus de prêtres à Birka. Et donc la vieille dame conserve très précieusement un petit peu de vin. Alors elle le conserve pendant 3 ans, ça devait être une sacrée piquette à l'arrivée. Elle conserve un petit peu de vin donc afin de pouvoir, je cite le texte, recommander sa mort à la grâce de Dieu. Puisqu'on n'a pas de prêtre, on se contentera du vin. Quoi qu'il en soit, tout cela nous prouve que le vin faisait l'objet d'échanges entre le continent, essentiellement probablement la région parisienne et la région rhénane, avec les grands monastères producteurs qui s'y trouvaient, à commencer par Saint-Germain-des-Prés ou l'abbaye de Prume, donc entre d'une part ces 2 régions et les mondes anglo-saxons et scandinaves. Dans un autre texte, en l'occurrence un poème, d'Hermone Lenoir, le Rhin personnifié rétorque aux Vosges, également personnifié, qu'il accuse donc de priver la population locale des productions de la région en les transportant au loin, le Rhin rétorque qu'il est au contraire, je cite, utile de vendre du vin aux frisons et aux peuples maritimes. Alors, expression un petit peu vague qui désigne très probablement les anglo-saxons et peut-être les scandinaves. Cette présence en terre anglo-saxonne et scandinave est d'ailleurs confirmée par l'archéologie. On a par exemple mis au jour à Hedebu et à Ribes des restes de tonneaux en bois de sapin blanc et d'épicéa. Alors pourquoi je m'appesantis sur le matériau? Parce qu'en fait ce bois provient selon toute vraisemblance de la région rhénane, nous y revoilà, donc une région qui est une importante contrée viticole. Il est alors assez tentant de faire le rapprochement entre ces tonneaux, qui ont servi ensuite très souvent à renforcer l'intérieur de puits, et le transport de vin. Donc là, vous avez l'exemple qui est exposé au musée de Hedebu. À ces tonneaux s'y ajoutent un certain nombre d'objets de table, en particulier des pichets, et notamment les pichets qu'on dit du type de tétting, qui sont des pichets très reconnaissables, ils sont de couleur très sombre, et ils sont décorés avec soin, en général, à la feuille d'étain, avec souvent des petites croix, et qui sont nommés donc en fait d'après un site qui se trouve sur la côte ouest du Jutland et où on a tout simplement trouvé les premiers exemplaires au début du 20e siècle. Donc ça donne le nom à ces objets. Des pichets, mais aussi des verres à boire, alors souvent à conique, soit rond, probablement eux aussi liés à la consommation de vin, donc à l'image des verres qu'on retrouve dans le monde franc, d'où ils proviennent très probablement. D'où ils proviennent très probablement pour la simple et bonne raison que les Scandinaves à cette époque ne maîtrisent pas la fabrication du verre. Ils savent le refondre pour fabriquer par exemple des perles, mais ils ne savent pas le fabriquer, ce qui implique donc d'en importer sous différentes formes, sous forme de débris ou sous forme de tesselles. On a découvert des verres, notamment des verres en forme d'entonnoir, qui datent du 9e siècle ou du début du 10e siècle, dans la plupart des emporias, en particulier à Birka, où l'étude des tombes est particulièrement riche en informations, mais également à Hedebu, en particulier dans la chambre funéraire bateau assez somptueuse et sur laquelle je vais revenir dans pas très longtemps, mais aussi à Kaopang, dans plusieurs tombes. Alors traditionnellement, en Scandinavie, on boit plutôt de la bière et plutôt dans des coupes en bois ou en corne. Alors pourquoi se mettre à boire du vin dans des verres, sachant que la vigne ne pousse pas sur place et que les artisans scandinaves ne fabriquent pas, ne maîtrisent pas la technique de fabrication du verre? Probablement pas pour le plaisir de simplement se compliquer la vie, mais plutôt en raison même de la rareté du vin et du verre, une rareté qui leur confère une signification particulière. Alors reste à savoir quelles pouvaient être les connotations symboliques du vin et du verre aux yeux des habitants des Emporias scandinaves. Peut-être s'agissait-il du désir d'imiter les élites franques et leur mode de vie, une forme d'imitatio regni francorum, qui est une expression que j'emprunte donc à Ulf Nessmann. On se met en quelque sorte à boire du vin à la mode franque. Alors en effet, dès le VIe siècle, les Mérovingiens puis les Carolingiens ont une influence majeure sur le Nord, contribuant à façonner certains aspects des sociétés scandinaves. Il ne faut pas oublier en effet qu'après la conquête de la Saxe, Charlemagne est devenu le voisin des Danois. La frontière est alors d'ailleurs fortifiée hein, au sud du royaume des Danois pour se protéger. La frontière est fortifiée, ce qui ne l'empêche pas de demeurer perméable aux formes d'influence culturelle qui pénètrent dans la péninsule du Jutland et même au-delà, jusqu'en Suède et en Norvège. Cette influence, elle est particulièrement visible dans la chambre funéraire bateau des Debus dont je vous parlais il y a un instant. Cette chambre funéraire, on y a notamment retrouvé, une fois encore, un verre à boire en forme d'entonnoir, vous le voyez sur la partie gauche de l'image. Et cette sépulture, qui est en fait une sépulture double, reproduit clairement le cérémonial de la cour franque dans le nord, avec une chambre funéraire de type continental, ce qui est assez inhabituel pour l'époque, donc l'époque c'est-à-dire le milieu du IXe siècle. Et on y retrouve par ailleurs de nombreux objets carolingiens, alors des objets de plutôt bonne qualité, comme vous le voyez notamment avec l'exemplaire donc d'une des épées, enfin le zoom que je vous ai mis sur la droite. Alors une des théories, c'est notamment celle d'Egon Vammers, c'est que ce serait la sépulture d'un ou plutôt de deux francs, ce qui serait le signe de contact, de relations diplomatiques entre les Carolingiens et les Danois. Mais rien n'interdit de penser qu'il peut s'agir également d'hommes du Nord. On aurait alors, avec cette tombe, un nouvel exemple d'imiter, de la volonté d'imiter, un rituel carolingien. Cet attrait pour la culture franque ne se limite d'ailleurs pas au vin. Certains bijoux en témoignent également, en particulier ceux qui sont en forme de trèfle. On en a retrouvé de très nombreux exemplaires en Scandinavie, sont en général des broches, datant des 9e et 10e siècles, et notamment dans les Emporias. Ici, c'est l'exemplaire qu'on a retrouvé à Kaupang. Alors, il s'agit soit d'importation, soit d'imitation locale, mais qui témoigne donc d'une influence probablement continentale. Certaines décorations, notamment les plantes, les spirales, les filigranes, sont également d'inspiration plutôt franque, rappelant bien souvent les enluminures des manuscrits carolingiens. Holger Hartmann donc, a montré il y a déjà quelque temps, pour ne reprendre quelques exemples, que l'attache donc qu'on a retrouvée dans la tombe 543 à Birka et qui date donc du tout début du Xe siècle, donc cette attache est décorée de feuilles d'acanthe qui rappellent fortement certains manuscrits comme le sacramentaire de Metz ou les évangéliaires de Laon et de Lautère. Le vin, les objets liés comme les verres, les pichets, les tonneaux, mais aussi donc certains bijoux découverts en Scandinavie, semblent donc bien intégrés dans la vie quotidienne des habitants des Emporias et soulignent que ces derniers s'efforcent d'afficher un style de vie semblable à celui des Francs, qui représente alors, il ne faut pas l'oublier, le royaume et même l'empire à partir de 800, le plus important, le plus puissant, le plus puissant au 9e siècle, pardon. On peut donc y voir une forme de fascination, de modèle, d'attrait que l'on cherche à imiter en buvant du vin ou en portant certaines broches, mais aussi en se mettant à battre monnaie, une pratique jusque-là inconnue en Scandinavie. Les premières monnaies scandinaves, alors danoises en l'occurrence, suscitent encore de très nombreux débats dans lesquels je ne vais pas rentrer aujourd'hui sur notamment donc leur origine. Alors, sinon, on ne va plus en sortir. Quoi qu'il en soit, il est intéressant pour notre propos aujourd'hui de souligner que les monnaies carolingiennes, et tout particulièrement celles issues des deux grands emporia francs, qui sont contrôlés par les francs, qui sont Quintovic et Dorestat, donc la plupart donc de ces monnaies carolingiennes, qui arborent toutes deux un navire, servent de modèle à ces premières monnaies scandinaves. Donc sur ces monnaies scandinaves, on reprend le navire et on y associe très souvent d'autres éléments plus scandinaves ou germaniques, notamment le cerf. Ces copies jouent un rôle particulièrement important à Hedeby et à Birka, où elles ont été retrouvées en nombre très important. Par exemple, lors des fouilles du port de Hedeby, qui remontent de 1978 à 1980, sur les 68 pièces qu'on a retrouvées, il y en a 33 qui étaient des imitations de Dorestat. Et de façon générale, ces copies représentent environ la moitié des découvertes isolées qu'on a pu faire jusqu'en 2002 sur ce site. Tout semble donc indiquer que ces pièces constituaient la monnaie la plus utilisée à Hedeby, y servant pour les transactions au 9e et encore dans la première moitié du 10e siècle. Donc dominant largement les monnaies en circulation dans cet emporium, ces pièces se retrouvent également dans la région environnante, notamment donc dans le trésor de Steinfeld et dans une tombe à Suderbrarup, toujours dans la région, ce qui semble confirmer donc la popularité de ces monnaies parmi l'élite locale et les marchands de la région. Que ces pièces soient frappées à Hedeby ou à Birka, ou peut-être dans les deux ports, les motifs carolingiens ont donc de toute évidence constitué une source d'inspiration privilégiée pour les monétaires de ces ateliers scandinaves. On adopte alors la monnaie pour payer comme les francs, donc tout à l'heure on buvait comme les francs, maintenant on paie comme les francs, mais on peut se demander si ces imitations ont seulement une vocation économique. Ici aussi, la proximité de l'Empire carolingien est probablement pour beaucoup dans cette influence. Surtout si le lieu de frappe était Hedeby. On n'est vraiment pas très loin de la frontière avec les Francs. Mais ce phénomène d'imitation a probablement une signification qui dépasse le seul domaine économique. On imite également un empire à la prospérité économique reconnue, mais c'est aussi une façon d'afficher une forme d'autorité. Ce que le nombre, somme toute, assez limité et surtout la faible diffusion de ces premières monnaies pourrait confirmer. Le pouvoir à l'origine de l'émission de ces pièces a pu s'en servir comme d'un instrument de prestige, lui permettant de diffuser son autorité en cours d'affirmation dans la région, mais sans vraiment parvenir à dépasser cette région. Les découvertes loin de Hedeby sont assez rares, en dehors bien sûr de celles de Birka. L'arrêt de cette frappe monétaire vers le milieu du 9e siècle et jusqu'au milieu du 10e siècle semble confirmer ce lien entre le monnayage et un pouvoir probablement royal, puisque dans le contexte des rivalités qui font suite à la mort d'un roi, en l'occurrence le roi Auric, en 854, l'autorité royale danoise se trouve bien affaiblie et pour environ un siècle. Et c'est cette période qui correspond justement au trou chronologique, en quelque sorte, en termes de monnayage dans la région. L'autorité, donc peut-être royale, à l'origine de cette première monnaie, a donc pu s'inspirer de Charlemagne et faire de ce premier monnayage un outil plus politique qu'économique. Il ne s'agit pas tant de payer comme les francs que d'affirmer son pouvoir comme un souverain carolingien. Le fait que ces imitations, d'ailleurs, soient souvent montées en pendentif, ou même juste percées, pour être portées au cou, comme vous l'avez ici sur l'exemple retrouvé à Tisseux, cela semble indiquer qu'elles étaient porteuses d'un message probablement plus symbolique et idéologique qu'économique. Le fait que ces pièces soient souvent retrouvées en contexte élitaire, comme c'est le cas pour Tisseux, semble également aller dans le même sens. C'est également le cas des trois imitations scandinaves, de la monnaie de Dorestat qu'on a découverte. Alors, l'une dans une tombe élitaire à Hofgarden, qui est un lieu de pouvoir près de Birka, l'autre sur le site seigneurial donc de Tisseux au Danemark. Et la troisième, je ne l'ai pas notée, je ne m'en souviens plus. Mais enfin, sur les deux, on en a trois exemplaires en contexte élitaire. Donc les monnaies occidentales, mais aussi le verre et le vin que j'évoquais tout à l'heure, seraient en ce sens avant tout des marqueurs élitaires, finalement. En effet, comme les monnaies de Dorestad et de Quintovic, les verres, les pichets, notamment les pichets de Tetting, qui sont découverts en dehors des emporias, sont retrouvés majoritairement en contexte élitaire. Par exemple, à Dunkirk, qui est un siège élitaire, probablement d'un chef, tout près de Ribe au Danemark, ou encore beaucoup plus loin, beaucoup plus vers le nord, sur le site élitaire de Borg dans les îles Lofoten. On peut toutefois se demander si la connotation prise par le verre et le vin dans les emporias était strictement similaire à celle qu'ils revêtaient sur ces sites élitaires. S'agissait-il simplement d'une façon d'afficher sa supériorité ou la supériorité de son rang? Les élites, et c'est là que le bât blesse, ne semblent en effet pas très présentes dans les emporias, qui ne portent pas dans leur sol de différenciation sociale bien visible. On n'a par exemple pas de traces de bâtiments particulièrement prestigieux et finalement pas énormément d'objets très luxueux. Dans ces conditions, on peut se reposer la question et se demander finalement qui buvait du vin dans des verres dans les emporias, si ce n'était les élites. Dans des sites à vocation avant tout commerciale, la première réponse qui vient en tête, bien sûr, ce sont probablement des marchands. On peut ainsi supposer que le verre a été introduit dans les ports scandinaves, soit par les marchands et voyageurs continentaux qui étaient alors de passage en Scandinavie, soit par les marchands et voyageurs scandinaves de retour chez eux. Quoi qu'il en soit, la consommation de cette nouvelle boisson semble ensuite se développer dans ces ports scandinaves, et en revanche assez peu dans les arrière-pays, dans leur arrière-pays. On a retrouvé très peu de verres à boire en dehors des emporias et des quelques sites élitaires que je mentionnais précédemment. Ces objets et cette boisson devient ainsi un trait de la culture matérielle de ces sociétés, composées en majorité d'artisans et de marchands. Dans ces conditions, quelle signification revêt alors le vin avec les objets qui lui sont associés ? Il est ici intéressant de noter que la majorité des verres qui ont été retrouvés entiers, en un seul morceau, ont été découverts en contexte funéraire et non pas en contexte d'habitat. Alors, c'est peut-être une question de préservation, peut-être parce qu'ils ont été mieux préservés dans les tombes. Mais on peut aussi y voir un signe de leur statut particulier. Parce que, en effet, même lorsqu'on retrouve des débris de verre sur les sites, il est en fait assez rare de retrouver plus de 10% du même verre. On retrouve plein de fragments, mais qui semblent provenir de plusieurs récipients différents. Ce qui semble indiquer qu'en fait, ces débris seraient plutôt une forme de matière première que j'évoquais tout à l'heure. On importe donc des débris pour pouvoir les refondre et fabriquer autre chose, notamment des perles. Et non pas des débris parce que des verres entiers, des récipients, auraient été cassés sur place. En d'autres termes, il s'agirait donc d'une matière première essentiellement destinée à la production de perles. Il en irait tout autrement avec les verres, retrouvés cette fois-ci entiers, dans certaines tombes. Ce qui pourrait indiquer que l'objet placé près du défunt n'était pas considéré comme un vulgaire récipient, un récipient qu'on utiliserait dans la vie courante, la vie de tous les jours, et de tout un chacun, mais plutôt un objet devenu symbolique, un peu comme d'autres objets aux connotations assez marquées, qu'on retrouve également dans les tombes. Je pense en particulier aux balances, interprétées très souvent comme des symboles de fonction commerciale, ou les armes comme symboles de responsabilité. L'association de ces différents objets n'étant d'ailleurs pas rare en contexte funéraire. Par exemple, dans la sépulture double 644 à Birka, qui date donc du milieu du Xe siècle, on a découvert, donc, aux côtés donc, du corps masculin, puisqu'il y a donc deux corps, une épée, mais aussi, un petit peu plus à part, c'est ce qui est intéressant, un peu à l'écart du reste du mobilier, vous le voyez sur le dessin à gauche, un peu plus en bas, plus près des pieds, les restes à la fois d'une balance avec plusieurs poids en bronze, les deux objets sont souvent associés, mais aussi, et c'est ce qui est intéressant, un gobelet en verre. Donc, dans une place, j'insiste, un peu particulière, un peu séparée du reste. Ce qui pourrait peut-être être le signe que ces différents objets étaient utilisés ensemble, peut-être pour conclure une transaction commerciale. On pourrait d'ailleurs faire une remarque assez similaire concernant les pichets de type de tétting que j'évoquais tout à l'heure et qui ont eux aussi été majoritairement retrouvés dans des tombes, tandis que les autres céramiques plus ordinaires, qu'il s'agisse de céramiques locales ou de céramiques d'importation mais moins luxueuses, comme par exemple les céramiques dites de Badorf, qui sont elles un peu plus jaunâtres et un peu plus simples que les céramiques de tétting, elles sont présentes sur les zones d'habitat, par exemple les fameuses terres noires de Birka. Donc d'un côté, on aurait des céramiques qui témoigneraient d'un usage plus quotidien, plus pratique, et d'un autre côté, les céramiques de type de tétting, plutôt présentes dans les tombes, qui elles auraient une connotation plus symbolique. En contexte funéraire, en effet, les objets ne peuvent pas être interprétés comme un reflet de la réalité historique. Le mobilier qui accompagne un défunt est toujours le résultat de choix faits par sa famille, ses proches, et revêt donc une dimension symbolique. Les tombes ne nous offrent pas un reflet du monde, mais plutôt un reflet de la perception qu'avaient de ce monde les proches du défunt. On peut dès lors se demander si la consommation de vin dans des verres visait seulement à imiter une mode franque. Peut-être. Mais on peut peut-être aussi supposer que ce n'était pas là la seule raison. La consommation de vin a aussi pu faciliter la création de liens dépassant les frontières culturelles. Certains vont ainsi jusqu'à suggérer que les verres à boire retrouvés dans les emporias ont pu servir d'outils commerciaux, ce qui pourrait expliquer la proximité du verre et de la balance dans la tombe de Birka. D'outils commerciaux en quel sens? Les contrats pouvant en fait se conclure en levant son verre en l'honneur de l'accord qui vient d'être passé, ce qui pourrait être une première forme du Kopskål, ce qui est donc une façon de conclure le contrat scandinave, mais plus tard pour la période médiévale. En d'autres termes, un même objet a pu revêtir, en fonction des contextes, des significations différentes. Dans les lieux de pouvoir comme dans les ports de commerce, vin, verre, céramique fine du type de tétting sont des facteurs de différenciation sociale et de différenciation culturelle en raison de leur rareté, comme je l'ai rappelé dès le début. Mais dans le cas précis des emporias, ces objets ont dû contribuer à forger une unité sociale entre marchands ou artisans par-delà la diversité culturelle, faisant ainsi partie intégrante d'une nouvelle réalité matérielle qui distingue de plus en plus nettement la population de ces ports de la population rurale de l'arrière-pays. Population rurale qui boit encore davantage de la bière, une fois encore dans des coupes en bois ou en corne, tandis que cette nouvelle population urbaine semble préférer boire du vin dans des verres. La consommation de viande, notamment de viande bovine, a pu s'inscrire dans la même logique. Les animaux dans ces ports pourraient être le signe d'un mode de vie différent, permettant la création et le maintien d'une identité sociale. En effet, si bien sûr l'essentiel du régime alimentaire dans les emporias se composait, comme partout ailleurs, de céréales, la comparaison du schéma alimentaire de ces ports et de celui de certains sites, enfin de quelques sites ruraux contemporains, fait ressortir un certain nombre de spécificités des emporias en matière de consommation. Alors les restes osseux étudiés ne permettent pas vraiment d'affirmer que ces sociétés portuaires consommaient plus de viande que les habitants des campagnes environnantes. En revanche, la prédominance du bœuf dans leur alimentation carnée semble assez nette. Dans tous les emporias, les os de bovins dominent nettement, en poids comme en nombre, représentant en général plus de la moitié, voire pour certains sites les deux tiers, des restes osseux d'animaux. Dans le cas de Ribe au Danemark et de Dorestad en Frise, cette conclusion semble également confirmée par l'analyse des œufs de parasites qu'on a retrouvés dans du fumier et qui sont donc le signe de la présence importante donc de ruminants sur ces sites, probablement en majorité des bovins, soit consommés sur place, soit destinés à la revente et à l'exportation. Cette tendance à la prédominance du bœuf semble même s'accentuer au cours du Xe siècle dans certains sites, notamment Hamvik en Angleterre et Birka en Suède. Et qui dit bœuf ne dit pas seulement vieille vache laitière de réforme ou vieux bœuf de trait à la retraite. Quelques textes évoquent la consommation de viande de veau. L'auteur de la chanson de Rigueur, qui est un poème alors dont la datation fait énormément de débat, la fourchette chronologique retenue est très large, ça va en gros entre 800 et 1200. Quoi qu'il en soit, l'auteur estime que la viande de veau est, je cite, le plus grand des régals, ce qui est donc signe qu'on en consommait. De fait, l'archéologie a montré que dans certains de ces ports, notamment Hedebu et Kaopang, la viande de veau paraît avoir été particulièrement prisée. Alors c'est toujours très difficile d'avoir d'émettre des conclusions sur l'âge des bêtes, ces conclusions pouvant être biaisées par la mauvaise conservation des os et la petite taille des échantillons étudiés. Malgré tout, cette préférence pour des animaux assez jeunes pourrait indiquer une stratégie orientée vers la production de viande bovine et pas simplement la récupération de vieilles bêtes envoyées à la réforme. Cette orientation vers la production de viande est par ailleurs confirmée par la consommation assez importante de porc, cette fois-ci, dans les emporiens. Les archéologues ont découvert des restes de porcs assez nombreux, alors par exemple à Birka, à Rib, et surtout à Hedebu et à Kaopang. Le porc est intéressant parce que contrairement aux bovins et aux ovins, il n'a pas vraiment d'autres usages, si ce n'est la production et la consommation de viande. On ne s'en sert pas pour faire du lait ou de la laine. Ce qui explique que la plupart des bêtes soient tuées relativement jeunes, avant 3 ans en général, et que les parties donc les mieux représentées soient toujours les parties les plus charnues aux extrémités. Les habitants des emporias semblent donc ainsi consommer davantage de bœuf et de porc que les habitants des sites ruraux de la région environnante. Pour ne prendre qu'un exemple, en Suède, sur 2 sites ruraux, donc Lignore et Polista, les porcs représentent seulement 15% des restes osseux, tandis que les restes d'ovins représentent pour l'un 50% et pour l'autre 30%. Donc seulement 15% pour le porc, tandis qu'à Birka, ce taux se situe autour de 24%. Donc il y a une différence qui est quand même assez nette. La rareté des restes d'animaux sauvages et d'oiseaux sauvages semble par ailleurs confirmer que les habitants de ces ports étaient approvisionnés essentiellement par l'élevage et ne chassaient probablement que peu, voire pas du tout. Les ressources maritimes et fluviales étaient également assez faiblement exploitées. Les restes de poissons sont peu nombreux dans la plupart de ces sites, ce qui peut paraître un peu surprenant considérant que ce sont des ports. La faible consommation de poissons, de coquillages, de crustacés dans la plupart de ces sites, donc pourtant en bordure de rivières ou de mer, contraste assez nettement avec la consommation des occupants de sites côtiers plus petits et souvent pas très loin, où là on consomme donc davantage de ressources maritimes. Cela tendrait à indiquer que les emporias, qui étaient des grands ports marchands, n'étaient pas d'importants ports de pêche, à l'exception probablement de Birka et Kaopang toutefois, donc en Suède et en Norvège, où on a mis au jour des restes de poissons en quantité beaucoup plus importante que sur les autres sites. La présence d'aneth, donc l'herbe pour parfumer, hein, de coriandre, de cumin, mais aussi de figues, alors cette fois-ci à Hamvik en Angleterre, ou encore de noix à Birka, à Rib, à Hedebu, souligne également que l'alimentation des habitants de ces ports était variée et ne se limitait pas à ce qui était produit sur place, mais pouvait également comporter des fruits, des herbes ou des épices d'importation. C'est par exemple le cas de la noix qu'on a retrouvée. Ah oui, alors ça c'était pour le porc. De la noix qu'on a retrouvée à Hedebu et qui semble provenir d'Allemagne du Sud. Elle est probablement descendue par le Rhin. Bref, le régime alimentaire dans les emporias paraît à la fois plus riche et plus diversifié que celui dans les campagnes environnantes. Et contrairement aux sites ruraux contemporains, dont l'alimentation repose essentiellement sur une économie de subsistance, hein, les habitants mangent ce qu'ils ont à disposition immédiate, les pratiques alimentaires dans les emporias semblent, elles, davantage fondées sur une économie que l'on pourrait qualifier de marché, dans le sens où la plupart des occupants de ces sites ne produisaient pas leur nourriture et devaient donc la faire venir de l'extérieur. Ce qui présente l'avantage d'élargir les possibilités de choix en matière d'alimentation, et ce qui explique la plus grande diversité, et aussi probablement la meilleure qualité, mais aussi les nombreuses influences extérieures, une fois encore peut-être des influences en partie franques. Le porc en particulier est la viande par excellence des élites franques, comme en témoigne sa proportion élevée sur certains sites élitaires comme Paderborn. Le porc à Hedebu pourrait donc être le signe d'une influence franque, peut-être par l'intermédiaire des frisons. Quant aux noix, elles poussent plutôt en climat tempéré et ont besoin d'un petit peu de chaleur l'été pour pouvoir se développer. Les noyers aujourd'hui sont particulièrement productifs en Turquie et en Iran, pour vous donner une petite idée de l'endroit où ça pousse. Ça pousse aussi assez bien chez nous. En revanche, le climat scandinave n'est pas très propice à la pousse des noyers. Contrairement au climat un peu plus au sud, en Gaule ou en Europe centrale, comme le confirme la mention de ces arbres dans les chapitres 62 et 70 du capitulaire des Vilis. De même, les figues poussent probablement assez mal, pour ne pas dire pas, en Angleterre. Alors qu'on en a retrouvé, je vous le disais, à Amvik. Elles sont, en revanche, également mentionnées dans le capitulaire des Vilis. Alors, bien sûr, les noix, les figues, ne constituaient pas l'essentiel de l'alimentation dans ces ports. Tous les habitants ne mangeaient probablement pas des noix et des figues, et ça n'était probablement pas le dessert quotidien. Les noix, les figues étaient probablement consommées davantage comme des friandises, en quelque sorte, que comme des aliments. Il n'en demeure pas moins qu'elles témoignent d'influences venues davantage du sud, probablement, ou peut-être des influences franques. Pour autant, ce régime alimentaire particulier donc dans ces ports n'est pas non plus complètement semblable à celui des sites élitaires où les archéologues ont souligné la plus grande sélection des bêtes qui sont élevées cette fois-ci vraiment en premier lieu pour la production de viande tendre. Donc si sur les emporia on a retrouvé des restes de jeunes animaux, on en retrouve encore plus sur les sites élitaires. C'est particulièrement bien étudié pour l'Angleterre. La plus grande présence du porc, mais aussi des animaux et des oiseaux sauvages dans les sites élitaires, semble également les distinguer des sociétés portuaires des emporiens. De façon générale, et alors même si bien sûr, je vais y revenir un peu plus tard, des variations s'observent selon les sites et selon les périodes, l'alimentation donc des habitants des emporiens semble donc mettre en lumière un statut finalement intermédiaire de ces sociétés portuaires. Intermédiaire pourquoi ? Parce que le régime alimentaire y est de meilleure qualité que dans les sites ruraux des environs, et en même temps sans non plus atteindre le niveau de celui des sites élitaires, un statut qui semble donc en faire une catégorie à part avec ses propres caractéristiques. En dépit donc de nuances régionales, les différents emporia, alors tant francs que scandinaves ou même anglo-saxons, partagent donc des caractéristiques communes en termes d'organisation et d'activité, mais aussi donc de pratiques alimentaires. En ce sens, ces ports semblent plus proches les uns des autres, et ce malgré la distance qui les sépare, que du reste de la région dans laquelle ils s'inscrivent. Et c'est pour cela qu'on peut peut-être aller jusqu'à y voir l'émergence d'une première forme d'identité urbaine qui se retrouverait dans tous ces sites par-delà les mers. La hausse de la part de bovins, observée notamment à Amvik et à Birka, à partir de la deuxième moitié du IXe siècle, s'inscrirait dans la même logique. Allant de pair avec l'augmentation de la population, elle pourrait être une des conséquences d'un processus d'urbanisation ou de début d'urbanisation. Dans un contexte où manger de la viande, et particulièrement du bœuf, pourrait être un moyen d'exprimer son statut social, la consommation carnée pourrait apparaître comme le marqueur des débuts d'une culture urbaine, ou du moins d'une identité commune aux différents emporiens. Les animaux dans ces ports représentent donc plus que juste de la viande, ils sont le signe d'un mode de vie différent, permettant la création et le maintien d'une identité sociale. Une catégorie de consommateurs urbains semble donc émerger, avec un niveau de vie plus élevé que dans les campagnes alentours. L'adoption de coutumes étrangères, ou du moins assez inhabituelles pour la région, comme boire du vin dans du verre en Scandinavie, contribuerait ainsi à créer une identité urbaine et cosmopolite dans le cadre d'un double processus à la fois de différenciation sociale par rapport à l'arrière-pays rural et de rapprochement socio-culturel par-delà les mers entre les différents emporiens, en mêlant des éléments des cultures matérielles mais aussi immatérielles à travers des pratiques sociales qui permettent de distinguer ou de rapprocher les différents groupes. La définition de ces nouvelles identités urbaines a pu passer par d'autres éléments, notamment des éléments vestimentaires. Au Xe siècle, par exemple, les habitants de Birka ont pu se considérer comme intégrés à une culture urbaine, se distinguant de la culture régionale qui prévalait alors, dans le reste donc de la région du lac Mälar, en particulier en adoptant des éléments magyars qui les rapprochent de la culture des Rousses qui prévalait alors dans cette partie orientale de la Baltique et jusqu'à Kiev. Pour se différencier des habitants de l'arrière-pays, les occupants des emporias semblent donc avoir créé leur propre culture, faite d'innovations, de pratiques sociales originales, d'assimilation, de mélange inédit d'éléments issus de différentes aires géographiques et culturelles, qu'il s'agisse de techniques, de savoir-faire artisanaux, de modes vestimentaires ou de pratiques alimentaires. Comme le montre assez bien l'exemple du vin introduit en Angleterre et en Scandinavie, ou même la consommation de viande. Ces mélanges et ces assimilations sont également perceptibles dans les moyens de paiement dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure. En effet, dans un des deux trésors qu'on a retrouvés dans le port de Hedeby, enfoui dans le premier quart du IXe siècle, on a retrouvé à la fois 7 pièces en argent, dont, une fois encore, 6 imitations des monnaies de Dorestat, et environ 600 petites perles de verre bleu, ce qui nous fait remarquer que donc, dans des sociétés où l'usage de la monnaie est encore assez balbutiant, ces petites perles bleues ont peut-être servi de moyen de paiement concurremment aux pièces de monnaie, puisqu'on les a retrouvées donc ensemble. Cela voudrait dire que les pratiques des marchands qui opéraient alors à Hedeby, qui achetaient, qui vendaient, ont mêlé ainsi différentes formes de paiement. D'une part, des formes de paiement traditionnelles, le troc, alors qu'il n'est pas visible à travers le trésor, ou l'usage de moyens de paiement autres que des pièces, comme des petites perles. Et également des formes de paiement monétarisées, peut-être cette fois-ci encore sous l'influence des marchands francs et frisons. Dans les emporias, marchands scandinaves et continentaux se côtoient et se mêlent, et ils ont également mêlé leurs moyens, leurs pratiques de paiement. La dimension volontaire et consciente ou non de ces pratiques reste toutefois malaisée à déterminer. Pour en revenir aux habitudes alimentaires, on peut se demander si les populations des emporias ont adopté volontairement ces modes de consommation pour se distinguer, ou si ce sont ces pratiques qui, entraînées par d'autres facteurs, ont contribué à distinguer les habitants des sites alentours. D'autres facteurs comme par exemple une certaine dépendance au réseau d'approvisionnement et à des systèmes tributaires, par exemple, à l'image de ce qui semble avoir été mis en place à Hamvik pour la viande bovine. En somme, où est la poule et où est l'œuf ? En l'absence de sources écrites détaillées sur ces questions, ça reste très difficile de trancher la question. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse du vin ou de la viande, les pratiques vont bien au-delà de la simple imitation, faisant émerger un mode de vie spécifique fait de métissage et de transfert entre cultures. L'exemple du vin montre bien que le passage d'un objet, ou ici d'une boisson, associé à certains objets spécifiques comme les verres à boire ou les pichets, donc le passage d'un objet, d'une boisson, d'un contexte à un autre, ici du cadre franc au cadre scandinave, entraîne une transformation de son sens. Transférer, ce n'est pas simplement transporter, faire traverser les mers. C'est aussi transformer les biens, mais aussi les pratiques alimentaires, les pratiques vestimentaires circulent et sont dans le même temps réinterprétées. La consommation de vin est toujours une forme de distinction, mais elle est devenue, dans le contexte des emporias, un marqueur peut-être différent de celui qu'elle était en contexte élitaire. Ce n'est peut-être plus tant une façon d'afficher son rang, mais plutôt une façon d'afficher son appartenance à une communauté spécifique, urbaine et cosmopolite. un marqueur urbain plus que politique en somme. Pour conclure, au même titre que les pratiques alimentaires, les activités artisanales et les échanges à longue distance contribuent à forger des modes de vie urbains et cosmopolites. Dans ces ports marchands, qui sont donc une fois encore des lieux de rencontres, d'échanges et d'adoption de pratiques étrangères, de brassage, de syncrétisme, dans ces ports, les flux et les interactions représentent une composante importante de leur caractère urbain. Leur intégration dans des réseaux suprarégionaux, tissés par les échanges commerciaux, mais aussi par les circulations de techniques et de savoir-faire, cette intégration participe activement à l'émergence d'une identité propre à ces lieux, une identité que l'on peut qualifier d'urbaine ou de proto-urbaine si on veut rester plus prudent quant à l'emploi de ce terme. Certains auteurs n'hésitent pas à parler donc d'une identité cosmopolite, la population de ces ports étant intégrée à des réseaux de commerce et de consommation qui couvrent toute une partie du bassin des mers nordiques, imprégnant les goûts scandinaves d'influence continentale et créant des pratiques cosmopolites comme la consommation de vin, des pratiques qui s'observent dans tous les autres emporia du nord de la Gaule à la Scandinavie. Je voudrais toutefois souligner donc la prudence dont il faut faire preuve face à toute généralisation un peu hâtive. Il est vrai que les emporia présentent un certain nombre de similitudes en matière d'alimentation. Mais ces similitudes sont encore bien loin d'une forme d'uniformisation intégrale des pratiques alimentaires à l'échelle de l'ensemble du bassin des mers nordiques. Des différences s'observent entre les différents sites. Pour ne prendre que quelques exemples, la part des bovidés est particulièrement importante à Hamvik, à Rib, à Kaupang, tandis qu'ils sont présents en proportion un peu moins élevée à Dorestad, à Birka et surtout à Hedebu. La part des ovins et des porcs varie quant à elle encore plus. Ils sont beaucoup mieux représentés à Hamvik ou à Dorestad que dans les sites scandinaves par exemple. D'autre part, je le signalais rapidement tout à l'heure, Birka et Kaupang semblent se distinguer de l'ensemble des autres sites par leur consommation plus importante de poissons de ressources maritimes. Et au sein du même emporium, les pratiques alimentaires peuvent également être très diversifiées. À Birka, par exemple, on a analysé donc les isotopes du carbone, de l'azote et du soufre dans les restes de plusieurs individus, les restes osseux de plusieurs individus, et cela a fait ressortir la grande diversité donc du régime alimentaire de l'échantillon d'individus analysés. Certains consommaient plus de viande, d'autres plus de poisson. Cette hétérogénéité des pratiques des habitudes de consommation invite par conséquent à ne pas négliger, par-delà les grandes similitudes, la diversité des pratiques alimentaires sur les rives des mers nordiques au premier Moyen-Âge, mais également donc la singularité de chacun de ces sites. Il n'en demeure pas moins que dans un contexte de profonds changements qui affectent l'organisation de la production et des échanges, les emporia se démarquent du reste de leur région par certaines spécificités alimentaires, en intégrant notamment des pratiques venues de l'extérieur. C'est ce mélange d'influences, ces transferts culturels qui font de ces ports d'Europe du Nord-Ouest des lieux uniques dans leur contexte, des patchworks, en quelque sorte, de liens entretenus à la fois à l'intérieur du site et avec le monde extérieur, sans que cela n'oblitère les particularités, les spécificités de chacun d'entre eux. Ces lieux se définissent ainsi par un double mouvement de transfert, de mélange, d'imitation d'une part et de distinction par rapport à leur région d'autre part. Et cette tension est constitutive de leur identité. Je vous remercie.